Rebonjour et bienvenue pour cette cinquième partie dont on va parler de la prise en charge de Windows Phone. Donc voici les grands thèmes que nous allons aborder dans ce cours. Les spécifications de Windows Phone et l'interaction avec Unity. Comment créer une build pour Windows Phone. Comment gérer l'appui sur le bouton Back du téléphone qui est un prérequis à la validation sur le store. Et enfin, l'utilisation de l'accéléromètre pour mettre un petit peu de fun. Donc Windows Phone 8, comme tous les OS, contient des spécifications que tous les téléphones doivent respecter. Les téléphones sous Windows 8, donc ça supporte l'accélération matérielle et ça utilise Direct3D avec un niveau de fonctionnalité de 9.3. Vous avez sans doute remarqué que les téléphones sous Windows Phone 8 contiennent plusieurs résolutions. On en a trois, donc les 480 par 800 qu'on nomme WVGA, les 768 par 1280 qu'on appelle WXGA, et enfin les 720 par 1280 qu'on appelle les 720p. Donc pour savoir dans votre code Unity quelle taille d'écran l'utilisateur a, c'est très simple, il y a deux propriétés pour ça, donc screen.with et screen.height, et vous allez tout de suite avoir ces informations là. Donc c'est quand même plutôt pratique pour pouvoir adapter par exemple l'UI ou ce genre de choses. Concernant tout ce qui est mémoire, parce que il faut savoir que effectivement sur téléphone, la mémoire ça va être très très important. On va pas forcément avoir les mêmes capacités que sur un PC soit portable, soit de bureau. Donc la mémoire ça va quand même jouer pas mal son rôle dans le développement du jeu. Donc il y a plusieurs configurations de mémoire. Donc tout d'abord il y a 512 de méga de RAM pour tout ce qui est WVGA et un minimum d'un giga pour tout ce qui est 720p. On peut noter par exemple que le 1020, le dernier Nokia 1020, lui il a une mémoire par exemple de 2 gigas. Donc c'est ça va bien entendu en fonction des gammes, etc. Ça peut quand même varier, et bien entendu, ça ne se limite pas à 1 giga. Mais pour ça, bien sûr, c'est du haut de gamme. Il faut penser que c'est quand même assez frustrant pour un joueur de se dire « Ah, mon téléphone n'est pas assez puissant pour pouvoir jouer à ce jeu-là. » Donc, voilà, c'est quelque chose qui... Il faut quand même penser à essayer de faire tourner le jeu sur toutes les configurations possibles. Par défaut, les projets Unity utilisent l'option IDFunk Extended Mem, qui permet au jeu donc de tourner sur les téléphones qui finalement ont très peu de mémoire. Ça, vous pouvez le changer en utilisant l'option ID underscore rec underscore memory underscore 300 donc ça va vous permettre d'augmenter cette limite. Un petit mot maintenant sur l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre c'est disponible sur tous les téléphones et c'est directement accessible de Unity à partir de l'API Unity. Donc à mettre en place c'est vraiment quelque chose de très simple, on va voir ça tout à l'heure. Ça prend que quelques lignes, et donc voilà, c'est quelque chose de très pratique et très simple à mettre en place. Donc c'est parti pour la petite démo sur comment créer une build sur Windows Phone. Donc je vais basculer sur Unity, et là c'est la même chose que tout à l'heure. On va aller dans File, Build Setting. Ici, on va sélectionner dans la liste Windows Phone 8. Comme tout à l'heure, on a les options de settings pour configurer un peu plus. Donc là, vous allez voir qu'on en a un petit peu moins pour le coup. Mais on va pouvoir jouer sur un nouvel élément qui est l'orientation sur laquelle le jeu va pouvoir s'afficher. Donc pour le coup, l'orientation c'est vraiment quelque chose d'important sur mobile, parce que le mobile on peut le tenir soit en mode portrait, soit en mode paysage. Et donc il va falloir choisir, entre guillemets, est-ce que le joueur va pouvoir se mettre en portrait, se mettre en paysage, soit les deux, soit un seul, soit une seule option. Donc dans notre cas, de notre petit jeu de sumo, on va pas vouloir que l'utilisateur l'utilise en mode portrait, tout simplement parce que le plateau de jeu est quand même assez grand. Nos sumo, c'est des sumo, donc ils sont pas forcément minces. Donc on a envie que tout tienne sur l'écran. Et donc ça va être quand même beaucoup plus pratique de se mettre en mode paysage. C'est pour ça qu'on a forcé ici le mode en landscape left, donc paysage gauche, pour vraiment fixer ce mode-là. Donc là, on va pas pouvoir, si on bascule le téléphone en mode portrait, le jeu va rester en paysage. Donc les icônes ne sont pas accessibles cette fois-ci. Il va falloir régler ses propriétés un peu plus tard, on verra, directement dans la solution. Et on a toujours, pareil, les mêmes informations que tout à l'heure avec la propriété d'accéléromètre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'API, etc. Donc une fois qu'on a cété nos variables, et là c'est pareil, c'est très simple, on appuie juste sur Build. On sélectionne notre dossier où l'on veut builder, donc ici Windows Phone Build, et c'est parti. Donc voilà, c'est buildé, ça nous ouvre notre dossier, on va directement se rendre dans Windows Phone Build, et là on voit qu'on a notre solution, donc Sumo Blocks. On va ouvrir pour aller voir, moi je l'ai déjà ouverte. C'est plus rapide. Donc là, ici, on voit bien qu'on a ciblé le Windows Phone 8. À l'intérieur, on retrouve à peu près les mêmes choses, sauf que l'on a un dossier ici qui s'appelle Asset. Et à l'intérieur, on retrouve quelques petites images. Donc ça va être pour l'utilisation des tiles, des live tiles. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir renseigner dans votre application directement. Comme le splash screen, il va falloir changer l'image parce que si vous ne changez pas l'image, bien entendu que à la certification, vous allez vous faire rejeter parce que l'image n'est pas bonne ou parce que vous n'avez pas mis des icônes correctes. Donc ça, il faut penser à le changer. Et ça se change ici dans cette solution-là. Après, c'est un projet très très simple, hein, donc on a toujours notre main page et notre code behind ici. Voilà, c'est rien de très compliqué pour le coup. On va passer maintenant, à la gestion de l'appui du bouton back sur le téléphone. Donc c'est ce bouton qui est là. Je sais pas si vous le voyez bien. Et donc, qui va avoir plusieurs utilisations, et on va tout de suite voir à quoi il sert. Donc, il faut savoir que la gestion du bac, c'est obligatoire pour passer à la certification. Si vous ne le faites pas, votre application sera tout simplement refusée. Donc, faut vraiment y penser, ça c'est comme les lifetiles et comme le splash screen, c'est vraiment trois choses qui sont obligatoires. Donc pensez-y, faites-vous une petite checklist avant de soumettre pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc on va voir comment utiliser ce bouton back. Il y a quelques recommandations à ce propos. Donc si dans votre jeu vous avez mis en place un système de navigation, Le fait d'appuyer sur le bouton back doit faire revenir à l'état précédent. Donc imaginons que vous êtes sur dans votre jeu, vous avez un menu, et ensuite vous allez sur un autre menu, vous cliquez sur un bouton pour aller sélectionner par exemple un niveau ou ce genre de choses. Si vous cliquez sur back alors que vous êtes sur la page de sélection de niveau, vous devez retourner à la page de départ. Voilà, c'est quelque chose de simple. Là, l'utilisateur, il comprendrait pas que en appuyant sur back, ça quitte le jeu directement. Il faut y penser si vous êtes dans de la navigation. Voilà, ça doit faire revenir à l'état précédent. Il y a une autre recommandation, c'est par rapport à tout ce qui est fenêtre modale, à tout ce qui est pop-up. Donc, si vous avez une pop-up d'affichée, par exemple, vous avez dans un jeu RPG, vous avez un petit personnage qui est en train de vous parler avec des petits dialogues. Ça a ouvert une petite pop-up de dialogue. Et bah, si vous appuyez sur le bouton back, le joueur va s'attendre à ce que la pop-up de dialogue se ferme. Et là, il comprendrait pas que en cliquant sur back, soit ça sorte du jeu et ça revienne au menu principal, par exemple, ou que ça quitte. Ça quitte le jeu directement. Donc il faut vraiment penser le bouton back comme quelque chose de contextuel et non pas c'est pas on appuie sur back, on quitte l'application. Et donc dans le cas contraire, si vous n'êtes pas dans ces cas-là, le bouton back doit quitter l'application, tout simplement. Donc, par exemple, si vous n'avez pas du tout de navigation dans votre jeu ou ce genre de choses, voilà, vous pouvez quitter l'application. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment on gère l'appui sur le bouton back du téléphone et un petit peu la gestion des inputs sur le téléphone. Donc c'est parti. On va aller dans Visual Studio. On va se mettre dans le Game Controller, ici. Donc nous sommes dans la fonction Update. On va regarder les conditions de Win et de Lose. Donc ça va être nos conditions. Donc quand on a perdu et quand on a gagné. Et on va vouloir, si on appuie sur une touche, dans le cas où on est sur le téléphone, relancer le jeu. C'est vraiment très simple. Quand on est sur du matériel comme un PC qui a un clavier, on va par exemple ici utiliser la touche return. Cette touche là, la touche return, on l'a pas quand on est sur un téléphone. Donc on va dire dès qu'on va appuyer sur n'importe quelle touche, donc par exemple le back, on va faire un reset. Donc on va remettre à zéro le jeu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a utilisé une petite condition qui vise la plateforme. Donc on lui dit si la plateforme que l'on utilise c'est du Windows Phone. Donc ici, si j'efface et que je regarde les plateformes qu'il y a, on peut voir que on a de l'Android, on a un peu tout, hein, du Windows Phone, de l'Xbox, de la PS3, PS4, etc., etc. Donc nous, on va prendre le Windows Phone 8 et on va lui dire que si il y a une touche qui a été appuyée, dans ce cas on appelle la fonction reset. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Petite remarque tout de même, ici on a utilisé cette condition là, mais on aurait très bien pu aussi dire de faire une directive de préprocesseur comme on a vu auparavant. Donc un DS if si je suis sur Windows Phone, Ok, une fois 8 par exemple. Je fais ce code. Dans le cas contraire, je fais l'autre. Donc ça, c'est juste un autre moyen de vous montrer. Les deux fonctionnent, vont fonctionner. La seule petite différence, c'est qu'en utilisant les directives de pré-processing, finalement, le code, tout le code qui ne rentre pas dans ces conditions, ne va pas être pris en compte à la compilation. Donc il y a un gain, alors pour le coup, dans cet exemple, qui est très minime, mais il y a un gain sur les performances qui est sur une boucle de jeu peut être pas forcément si minime que ça. Donc là, je vous ai montré cette technique-là, mais sachez que vous pouvez tout à fait utiliser une directive de processing. Ça fonctionne aussi. Donc ça, c'était pour le reset. Maintenant, on va s'attaquer au bouton back à proprement parler. Donc là, ça va se passer dans la main page, dans le code behind. Donc quand vous avez buildé votre projet dans Unity, automatiquement, il va vous faire une petite fonction qui est ici, phone application page backkeypress, et ça va récupérer l'événement qui dit que l'on a appuyé sur le bouton back. Donc automatiquement, il va créer cette fonction. Donc nous, on a juste rajouté ceci, qui va dire que l'on va prendre le GameController, l'instance unique du GameController, et on va appeler la fonction quit, qui va tout simplement, la fonction quit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Unity de se fermer. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc juste avec cette ligne de code ici, vous pouvez interagir avec le bouton back et dire bah voilà, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton back, qu'est-ce que je fais? Et ensuite avec notre singleton du game controller, et ben on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait dans telle situation. Donc là en l'occurrence de notre exemple c'est très simple, hein. On va juste on n'a pas de pop-up, on n'a pas de navigation, donc on ferme le jeu. Voilà, c'est très simple. Donc voilà comment faire gérer le bouton back. Maintenant, on va passer à l'utilisation de l'accéléromètre. Et là encore, vous allez voir que c'est très facile. Donc qu'est-ce que ça apporte l'accéléromètre? Alors, c'est quelque chose de simple à mettre en place et c'est plutôt fun. C'est plutôt sympa pour le joueur. D'utiliser l'accéléromètre. Bouger son téléphone, ça peut être quand même assez marrant. Par contre, ça va pas s'adapter à tous les types de jeux. Ça peut vraiment devenir un calvaire pour le joueur si le jeu voilà utilise l'accéléromètre pour tout et n'importe quoi. Donc faut quand même penser à ça. Et une dernière chose, c'est que l'accéléromètre, ah voilà, ça peut consommer quand même pas mal de batterie. Donc sur un téléphone portable, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Donc voilà, attention quand même, l'accéléromètre c'est fun, mais faut pas non plus en mettre de partout. Donc voici comment ça fonctionne l'accéléromètre. Ça va regarder dans quel sur quel axe voilà, le téléphone va se pencher. Donc vous avez trois axes, X, Y et Z. Donc X ça va être sur tout ce qui est la hauteur, tout ce qui est sur la largeur, Y sur la hauteur, et Z on va dire que c'est ça va être l'axe qui est perpendiculaire à l'écran de votre téléphone. Donc ces infos là, vous allez les récupérer directement de Unity. On va voir tout de suite comment on récupère ça. Donc pour ce faire, on va aller dans Player Controller, hein, parce que c'est ici où on gère le joueur et le mouvement des joueurs. Donc ça se passe dans la méthode Update. Ici, on peut voir cette petite condition, donc la même que tout à l'heure. Si notre plateforme, c'est du Windows Phone, alors on va calculer la vitesse du joueur en fonction de l'accélération. Donc c'est ça qui va nous permettre d'utiliser l'accéléromètre. C'est cette variable-là. Donc l'accélération sur l'axe X, en fonction du temps, etc. Donc ensuite, à partir de ce calcul-là, on va faire une translation du joueur. Et on va le faire, on va calculer aussi l'autre mouvement, et cette fois-ci sur l'axe Z. Donc voilà, après c'est juste des petits calculs mathématiques, rien de très compliqué. Le simple fait d'utiliser input.accélération, donc ça, ce qui va vous donner l'accéléromètre sur l'accélération, sur les différents axes, va nous permettre d'utiliser l'accéléromètre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et toujours pareil, si on n'est pas sur du Windows Phone, alors on utilise juste les entrées, par exemple ici les touches, les flèches sur un clavier, donc au bas, gauche, droite, pour calculer le mouvement que va faire le joueur. Donc voilà pour l'accéléromètre. Maintenant, si vous avez envie de tester ça sur votre téléphone, parce que l'accéléromètre, pour le coup, ça va être assez compliqué de le tester sur un simulateur ou ce genre de choses. Donc il vaut mieux le tester sur téléphone. Donc pour cela, ici vous sélectionnez bien Device. Vous pouvez aussi utiliser l'émulateur, mais pour tester l'accéléromètre, ça va être un petit peu compliqué. Vous branchez. Alors là, j'ai pas branché mon téléphone, donc ça ne va pas fonctionner. Mais vous branchez votre téléphone en USB. Vous pensez à bien déverrouiller le téléphone. Donc si vous avez un code PIN ou ce genre de choses, vous faites votre code PIN pour arriver sur la page de, on va dire la page de démarrage où vous avez toutes vos tuiles. Et là, vous lancez. Donc vous cliquez sur Device. Ça va builder le projet et ensuite le lancer sur le téléphone et vous allez pouvoir tester directement ce que ça donne. Voilà pour la petite démonstration sur l'accéléromètre. Donc c'est fini pour ce cours. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain cours.